Donc, on redémarre avec le verset 44 jusqu'à 53. Donc, c'est vraiment la toute fin du discours d'Étienne, interrompu, comme vous le savez, puisqu'on l'a déjà dit. Bon, si quelqu'un veut faire la lecture, ce serait bien.
Nos pères au désert avaient l'attente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse avait prescrit de la faire selon le modèle qu'il avait vu. Nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu chassa devant eux. Elle y fut jusqu'au jour de David. Celui-ci trouva grâce devant Dieu et demanda la faveur de disposer d'une résidence pour le Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Et pourtant, le Très-Haut n'habite pas des demeures construites par la main des hommes. Comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône et la terre un escabeau sous mes pieds. Quelle maison allez-vous me bâtir ?» dit le Seigneur. Et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a créé toutes ces choses? Homme aux courettes, incirconcis de cœur et d'oreille, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là même que maintenant vous avez trahi et assassiné. Vous aviez reçu la loi promulguée par des anges et vous ne l'avez pas observée.
Voilà, voilà. Ok, alors je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y travailler un peu. Notamment de repérer peut-être les trois parties de cette fin de discours.
Ouais, la troisième partie, c'est à partir du verset 51,
oui.
Homme du courage.
Oui, ça c'est quand il entre dans sa petite attaque du Sanhédrin. Voilà, donc il y en a une première qui est l'attente, tout simplement, l'attente du témoignage.
44-45, c'est entré dans le pays de Canaan, Josué.
Et puis le temple, on pourrait dire, donc à partir de Salomon, je dirais. Hein. Voilà, donc il y a un premier argument sur l'attente du témoignage, on va voir pourquoi ça a son importance. Et au fond, dans cette dernière partie du discours, Étienne réfute la troisième accusation qui a été portée contre lui, c'est-à-dire finalement t'es contre le temple, contre ce qui s'y fait, etc. Ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas opposé au temple ni au culte qui est rendu en ses murs, comme on le verra. C'est d'ailleurs le point de vue du courant messianique. Tout le monde continue à aller au temple, comme on l'avait déjà vu. Par contre, il s'oppose à ce que le temple est devenu dans le judaïsme, c'est-à-dire, d'après Étienne, une idole en soi. Donc, par exemple, critiquer le temple et son fonctionnement n'était pas vraiment toléré. Voilà. Donc, que ce soit l'histoire du change par rapport avec le Jésus, par exemple, ou tout simplement la notion de sacrifice. Bref. Donc, Étienne commence cette dernière partie de son discours par une séquence sur la tente du témoignage. Alors, il faut savoir que les mots « tente du témoignage », c'est ce qui se trouve dans la version des Septante, c'est-à-dire de la version grecque, tandis qu'en hébreu, ce sera plutôt la tente de la rencontre ou la tente du rendez-vous. Okay ? Donc, c'est ça un petit peu les différences qu'on peut avoir. Donc, la tente du témoignage, il insiste assez bien, c'est quand même les versets 44 à 46, pourquoi il insiste là-dessus? Pour démontrer quelque chose. J'espère qu'on découvrira exactement quoi. Puis après, il s'attaque au temple. Voilà. Alors, commençons d'ailleurs par la tente du témoignage au verset 44. Qu'est-ce qu'on apprend dans le verset? Est-ce que... Oui ?
Bah, elle existe depuis le désert.
Oui. Depuis Moïse, le désert. Okay. Depuis la sortie d'Égypte, en gros.
La sortie d'Égypte.
D'accord. Quoi d'autre dans le même verset ?
Dieu avait donné sa commande.
Ok. Donc, non seulement Étienne le dit, mais on peut le lire dans l'Ancien Testament. Il y avait un plan très détaillé et tout ce qui était à mettre dedans, y compris donc des modèles très précis sur ce qu'il fallait placer dans cette tente. Alors, on s'aperçoit, c'est assez intéressant, au verset 45, un petit complément d'information, c'est que c'est un don, finalement. Cette histoire de tente, du témoignage ou de la rencontre, c'est un don de Dieu. Donc on découvre déjà que ce n'est pas les hommes qui ont voulu.
C'est Dieu.
Il y avait déjà une manière de rendre des cultes au Seigneur, vous vous rappelez peut-être comment ?
Des autels sur des autels.
Oui, par exemple. Hein. Donc on avait coutume, là où on était, là où on campait, de construire un autel, d'offrir une action de grâce au Seigneur, etc. Où que soit le lieu, c'est-à-dire que ce soit en Canaan ou ailleurs, peu importe, on bâtissait et on sacrifiait. Donc il y a toujours eu un culte finalement, il y a toujours eu une relation à Dieu. Ici, Dieu suggère, maintenant qu'ils sont au désert, de construire cette tente du témoignage. Alors d'après la version des Septante, tente du témoignage dans le sens de regarder comment Dieu a agi pour Israël, voilà. Elle contient les tables de la loi et deux, trois autres choses qui attestent justement de la bienveillance de l'Éternel envers ce peuple-là en particulier. Je ne vais pas passer en détail tout ce qui a trait aux autels dans l'Ancien Testament, mais vous lirez dans mes notes lorsque je vous les enverrai. Il y a quand même un certain nombre d'exemples de construction d'autels indépendamment de la tente de la rencontre et bien avant d'ailleurs qu'elle existe. Donc on doit au moins garder en tête que la tente de la rencontre apporte un plus mais n'apporte pas un culte. Le culte existe déjà en réalité. Alors on peut se demander d'où vient l'idée de fabriquer cette tente. Et on se rend compte, si on relit Exode, par exemple, parce qu'ici, Étienne dit, c'est celui qui parlait avec Moïse, sous-entendu l'ange, hein, l'ange du début, qui a prescrit la construction. Mais dans Exode 25, au verset 8, on découvre ceci, il est dit, les Israélites, c'est Dieu qui parle, les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Voilà d'où est venue l'idée de cette tente. Alors, témoignage ou rencontre, encore une fois. C'est donc Dieu qui a l'initiative de cette réalisation. On pourrait presque dire que c'est sa volonté qu'il en fût ainsi. Donc, ce ne sont pas les hommes qui sont à l'origine de cette formule, de cette fabrication. C'est tellement vrai dans cette histoire que Dieu prescrit dans les moindres détails le plan et les modèles qu'il communique lui-même à Moïse. Je pense même qu'il les a dessinés, parce qu'il dit à Moïse de suivre exactement les modèles en question. Donc on découvre ça dans Exode 25, par exemple. Et qu'il faut suivre, donc c'est-à-dire le plan et les modèles, il faut les suivre avec exactitude. Quand on relit les textes de l'Ancien Testament, on découvre que hommes et femmes y ont été conviés. Donc, ce n'est pas une catégorie, c'est pas seulement deux hommes, parce qu'effectivement, il y a deux maîtres d'œuvre. Hein, si vous vous souvenez, Betsaleel, Oholiab, qui, à cause de leurs dons artistiques et autres, sont chargés de l'ouvrage. Mais en réalité, tout le monde y a donné, soit en offrande, en or, en argent, etc., soit en couture, en filage. Il est question des femmes qui filent les poils de chèvre, etc., les teintures, bon, bref. On peut se demander pourquoi Dieu souhaite finalement cette tente, ce côté visible, ce lieu, on pourrait dire, visible. Et la réponse est assez simple, finalement. Je pense que vous l'avez peut-être trouvée.
pour les rassurer, les accompagner.
Oui.
Parce que c'est pas rien de sortir d'Égypte, quoi.
Oui, Dieu veut se rendre accessible.
Ok, vous donc il y a une question de proximité, ça, oui. D'accessibilité. Et ça ne vous fait pas penser à quelque chose ?
Montrer sa présence permanente, toujours avec le peuple.
Moi, j'ai lu dans un commentaire, mais je l'ai lu après avoir relu le texte ancien, donc j'ai pas eu l'occasion de faire le lien, mais que c'était, entre guillemets, pour faire pareil que... Enfin, pour concurrencer les idoles. Qu'ils étaient partis du pays probablement avec leurs idoles, qu'ils ont probablement continué à les adorer, donc quelque part ils se mettaient entre guillemets au niveau d'eux, en tout cas en leur proposant quelque chose de visible,
de concret,
concret pour qu'ils puissent se rapprocher plus facilement à lui.
Alors ça ne me séduit pas totalement, j'avoue, en tant que théologien, mais admettons...
C'est pas moi qui l'ai écrit, hein.
Non. Je dis pas que c'est faux totalement, parce que quand même, lorsqu'on lit... alors il faut lire toute l'histoire de la sortie d'Égypte pour s'en rendre compte, mais il est question de 600 000 hommes. Donc homme masculin dans le texte, ce qui veut dire 2,5 millions, 2,6 millions de personnes. Parmi ces 2,5 millions ou 2,6 millions, on sait, par la lecture de l'Ancien Testament, qu'il y a un certain nombre d'étrangers.
Oui.
Donc, parmi les esclaves qui fuient, il n'y a pas que les Hébreux. Et donc, là où je te donne un peu raison, Anne-Catherine, c'est que vraisemblablement, parmi les étrangers qui n'ont pas encore adhéré à l'Alliance, qui ne sont pas devenus juifs, si vous voulez, bah oui, certains sont là avec leurs amulettes, leurs gris-gris, leurs idoles, etc. Tandis que les Hébreux, eux, devraient normalement ne pas en avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. D'accord ? Donc, c'est au moment où l'Alliance est conclue que tous sont appelés à l'observer, y compris l'étranger. Donc Dieu ne fait pas de différence entre ceux qui étaient d'origine païenne et les Hébreux, et il demande à tous de contresigner finalement cette alliance. Bon, on peut comprendre alors pourquoi le veau d'or, enfin on en a parlé l'autre fois, on ne va pas revenir dessus, mais qu'effectivement, il y a peut-être des relents d'idolâtrie, d'autant qu'Étienne insiste dans son discours sur le côté particulièrement redondant de l'idolâtrie en Israël. Donc il dit, vous n'êtes finalement pas mieux que les païens. Alors admettons que Dieu se mette à la hauteur des autres peuples et des divinités païennes. Mais en même temps, je pense que ce n'est qu'une une des lectures possibles, mais certainement pas la meilleure. Donc je repose ma question. Camper avec Israël, ça nous fait penser à quoi ?
Demeurer.
Oui, donc
s'établir.
Vers le Nouveau Testament, on aboutit à quoi ?
Au Saint-Esprit.
Emmanuel, Dieu avec nous. Je suis venu camper parmi les hommes. Donc la réalisation totale, on pourrait dire que la tente de la rencontre est une annonce prophétique de ce que Dieu veut réellement, c'est-à-dire habiter avec les hommes. On pourrait presque dire, de manière polynienne, habiter dans les hommes, hein, construire le temple à l'intérieur de la chair humaine, plutôt que dans des pierres ou dans des pots, hein, pour la tente en question. Il y a cette idée-là, en tout cas, qui est primordiale. On essaiera d'ailleurs d'y revenir dans un moment. Donc, il souhaite cette tente, cette visibilité, cette proximité, parce qu'il a toujours voulu habiter avec l'homme. Et on le voit dès la Genèse, chapitre 3, notamment verset 8, lorsqu'il est question de son occupation dans le jardin. Après tout, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Le Seigneur va se promener dans le jardin d'Éden, il n'a pas autre chose à faire. Non, il est là dans la proximité, dans la proximité relationnelle avec Adam et Ève, et ça n'a jamais changé. Donc ce que Dieu recherche, c'est cette proximité, c'est la relation, et une relation équilibrée, harmonieuse, amoureuse, avec l'être humain. Au fond, on peut, et c'est pareil avec Noé, vous regardez dans les générations qui suivent, c'est la même démarche à chaque fois. Donc, on pourrait dire, Dieu n'a pas voulu un lieu fixe encore moins, hein, un lieu temple à Jérusalem, mais il veut une relation personnel avec l'homme, on pourrait presque dire avec tout homme d'ailleurs. Dieu recherche, même après l'expulsion d'Éden, Dieu recherche la relation avec l'homme. C'est le cas d'Abraham, on l'a vu, il le choisit. Abraham a foi dans ce Dieu-là, qu'il ne connaît pourtant pas. On le voit dans les théophanies de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui apparaît, qui vient à la rencontre des hommes. On le voit dans le choix d'un peuple, le choix de 12 tribus qui deviendra un peuple. On le voit dans l'Alliance, quand il leur dit, par exemple, « Vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. » Donc toute cette idée de relation et pour le peuple d'Israël de rôle de prêtrie, si vous voulez, par rapport aux nations, pas par rapport à eux, par rapport aux nations au pluriel. Et puis, Dieu recherche, et on le voit bien en hébreu, par exemple, tente de la rencontre ou tente du rendez-vous, ça veut quand même tout dire. Hein. C'est que Dieu cherche vraiment une relation avec l'être humain. Et puis, bien entendu, nous qui sommes chrétiens, on sait qu'en Jésus homme, Dieu campe avec nous, et avec Jésus ressuscité, il vit en nous, dirait saint Paul, et il nous donne accès au Père, finalement, tous les uns les autres, par le fameux voile déchiré, c'est-à-dire sa chair, hein, puisque c'est ce que disent les épîtres pauliniennes et hébreux. Et donc Jésus est au ciel, c'est-à-dire, dans sa gloire, il nous prépare une place de nouveau auprès de Dieu. Donc, autant il a campé sur terre, autant il nous invite à venir camper avec lui et son Père et le Saint-Esprit dans cette demeure future. Donc, à l'origine, on découvre que le lieu saint est une tente. J'ai presque envie de dire une vulgaire tente. Hein, pas un lieu fixe. Une tente mobile qui se déplace avec le peuple et pour le peuple. Pas une résidence définitive et localisée en un seul lieu. Ce qui est la critique d'Étienne hein, dans ce discours. Et il leur dit, pour le dire plus brièvement, le lieu saint peut être partout. C'est pas Jérusalem le lieu saint. Aussi bien dans le désert, c'est-à-dire hors Canaan, que sur le territoire de Canaan. Et Deutéronome 12, c'est un des textes que tu avais souligné, Bernard, Deutéronome 12 précise à l'endroit qu'il choisira. Donc, la tente, elle sera là où Dieu veut qu'elle soit. C'est ça qu'il dit. Un peu plus loin dans le texte, d'ailleurs, un autre verset, il dit « À l'endroit que le Seigneur choisira sur les terres de l'une de vos tribus ». Donc ça peut être n'importe laquelle. Et d'ailleurs, pendant longtemps, ça a été où ?
Chez les ennemis.
Ah, entre autres.
Chez Sichem, les Philistins. Hein.
Chez les Philistins.
Sichem,
à Sichem, à Silo. Silo en plein territoire d'Éphraïm, donc c'est pas Juda. C'est pas la Judée, c'est pas Jérusalem, hein, on est bien d'accord. Donc on se rend compte que dans l'histoire d'Israël, pendant longtemps, cette tente, en tout cas jusqu'à David, c'est ce que dit Étienne dans le discours, jusqu'à David, cette tente aurait été mobile. Est-ce que vous avez calculé le temps qu'il y a entre la sortie d'Égypte et David au bas mot?
Oh, bien ça.
quand j'ai réalisé ça, bon, je me doutais un peu, mais quand même, je dis bon sang. Alors cette tente mobile, elle a vraiment eu une destinée incroyable. Ça fait quand même 5 siècles.
Oh, ah, oui.
500 ans de pérégrination sur le territoire de Canaan. Et parfois, comme tu le dis, hors des limites de Canaan. D'accord ? Donc on peut déjà en tirer une conclusion. C'est que le culte juif n'avait pas besoin d'un temple pour exister et pour durer. La preuve en est faite. La tente de la rencontre a servi jusqu'au jour de David. Jusqu'à ce que ce fameux David, deuxième roi d'Israël, installé sur les collines de Jérusalem, ayant construit un premier palais, se dit, mais c'est pas normal. Enfin, si vous avez lu le texte de Samuel, dit c'est pas normal. Moi, je suis dans un palais, Dieu est sous une tente, ça ne va pas. C'est de là, ça part d'un bon sentiment, d'accord ? On va dire ça comme ça. Ça part d'un bon sentiment.
Beaucoup de choses à part d'un bon sentiment tout compte fait, beaucoup de choses, c'est parce qu'après on le tord,
donc on va y revenir dans un moment, parce que David n'a pas commis d'erreur, il a un souci, un souhait, Dieu lui dira ben non, pas toi, désolé, ce sera ton fils, on verra ce que ça donne après. Mais revenons un instant sur l'histoire des modèles et de la tente elle-même. Parce qu'au fond, il y a une insistance, aussi bien dans l'Ancien Testament qu'ici dans le discours, sur le fait d'avoir réalisé pleinement les objectifs que Dieu avait fixés par rapport à cette tente. Alors, moi, je vois deux choses là derrière. D'abord, une vocation prophétique de cette tente. Et deuxièmement, un reflet de la réalité céleste. Donc, on pourrait dire... Alors, je vais reprendre point par point. La vocation prophétique de la tente est d'annoncer le Christ et toute la pédagogie qui va avec. Par exemple, le fait de tabernacler parmi nous, de camper, c'est effectivement la notion d'incarnation. C'est ce que le Christ réalise en naissant à Bethléem, en s'incarnant, en prenant notre dimension, en nous comprenant de l'intérieur, d'accord ? Donc la rencontre est totale, on pourrait dire. Là, on n'est plus dans une perspective prophétique de quelque chose qui va se réaliser, on est dans la réalisation pleine et entière. Nécessité aussi qu'un jour, le voile, alors on parle du temple, mais on peut parler du tabernacle aussi, hein, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, soit ouvert, déchiré. Alors, Hébreu dira, ben, le voile c'était le Christ, le corps du Christ lui-même, il a été rompu, donc voilà, le voile est déchiré, ça donne accès à tous les hommes, c'est-à-dire pas seulement aux Hébreux, mais à tous les hommes de l'humanité ont maintenant accès au Père via le sacrifice de Jésus-Christ. Ça c'est une manière de concevoir le côté prophétique de cet univers-là. Et puis, il reflète aussi la réalité céleste, c'est-à-dire celle du vrai sanctuaire de Dieu qui est au ciel, Dieu qui habite l'univers entier. Et donc, au fond, qu'est-ce que vit cette tente ? Nous montrer le chemin, alors le chemin du salut, d'une certaine manière, qui ouvre à une véritable communion. Donc, au fond... C'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu où tout homme pourra un jour rencontrer Dieu, au travers de ce Jésus qui assume pleinement l'attente de la rencontre, ouvrant l'accès à tout un chacun, au vrai sanctuaire qui est dans le ciel, là où réside le divin, là où il est question dans l'évangile du Christ qui prépare notre place là, dans ce nouveau campement autour de l'éternel, etc. Et puis, on pourrait donc dire qu'il y a une sorte de double mouvement. Il y a d'un côté, depuis le lieu très saint, Dieu vient en Jésus-Christ à notre rencontre. Bon, depuis le ciel, le lieu très saint, il descend, il s'incarne, il vient à notre rencontre, jusqu'à la porte du parvis, c'est-à-dire l'endroit où tous les hommes peuvent être accueillis, y compris le païen. C'est quand même assez incroyable, quelque part. Et il ouvre ainsi donc l'accès à chacun, au Dieu trois fois saint. Et le deuxième mouvement, c'est les hommes, tous les hommes cette fois-ci, qui sont conviés, appelés par le Fils, et vous vous souvenez de ces paroles de l'Évangile, à entrer par la porte, l'unique porte étroite par laquelle il faut passer pour arriver dans le sanctuaire. C'est-à-dire la porte qui menait vers l'autel. L'autel des sacrifices. Alors là, on peut de nouveau dire Jésus, sacrifice, Jésus, agneau pascal, tout ce qui rentre en compte avec ça. Donc le deuxième mouvement, c'est l'envers de l'incarnation, si vous voulez. C'est après l'incarnation, les hommes qui sont emmenés, conduits, menés vers le ciel, jusqu'au lieu très saint, pour vivre une pleine communion avec le Père. Alors c'est en partie réalisé. C'est réalisé parce qu'il y a le salut en Jésus-Christ, mais ça doit encore être totalement, comment dire, accompli dans un vrai lieu céleste que nous ne connaissons pas encore, mais que nous pourrions connaître bientôt. Voilà donc un petit peu ce double mouvement. Et en attendant, le Christ au ciel, lui, dans le vrai sanctuaire, prend notre défense, c'est ce que dit le texte des Hébreux, jusqu'à ce que nous rejoignions le Père. Donc, au verset 45, il raconte comment ça s'est passé, donc après la construction de la tente, etc. Nos pères l'ont reçu, sous-entendu, en cadeau, et ils l'ont introduit, sous la conduite de Josué, dans le pays conquis sur les nations que Dieu chassa devant eux. Et elle y fut jusqu'au jour de David, dit le texte. Petite question que j'avais posée, c'est quoi cette histoire de Dieu qui a chassé les peuples? Parce qu'au fond, nous, on a toujours un peu la perspective que c'est Israël qui a combattu.
C'est Dieu qui a combattu.
Oui, donc, alors c'est en partie vrai. Ce qui est surtout vrai, c'est qu'Israël a dû combattre parce qu'il a désobéi. Mmh. D'accord ? S'ils n'avaient pas désobéi, ils seraient entrés. Mmh. Dieu aurait pourvu. Bon, comme ils ont fait les malins, Dieu a dit, bah, vous voulez faire les malins, bah, allez-y tout seul alors. Je vous accompagnerai, je serai avec vous, mais je ne me battrai pas pour vous. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais en même temps, on se rend compte, parce que la mention jusqu'au jour de David, pourquoi Étienne prend cela ? Pas simplement à cause de la construction du temple, mais parce qu'il a fallu, jusqu'à la royauté de David, pour exclure les peuplades qui étaient en Canaan. Donc ça a pris quasi 5 siècles. Il y a eu la conquête, il y a eu quelques grosses villes, je pense à Jéricho, Haï, etc., qui sont tombées, des cités royales, si vous voulez. Mais à côté de ça, il y a toujours eu des Cananéens qui vivaient sur le territoire d'Israël, jusqu'à la royauté de David. Après, David a fait des pieds et des mains, donc ils se sont débarrassés de toute une série de gens, mais enfin, ça recommencera un peu plus tard, de toute façon. Jusqu'au jour de David, en clair, les Hébreux se contentèrent donc de la tente du témoignage pendant ces 5 siècles. C'est le temps où ils ont été apatrides, hein, les 40 ans dans le désert, etc., nomades, jusqu'à ce qu'ils s'installent vraiment en Canaan, qu'on répartisse en tribus les choses, et même là, beaucoup ont continué à vivre sous la tente. On n'a pas construit des villes et des villages tout de suite, etc. Et puis, le temps de l'installation en Canaan, jusqu'au début de la royauté, c'est ça que veulent signifier, c'est jusqu'au jour de David. Et David, lui, une fois installé, se pose la question de la dignité de la tente de la rencontre par rapport à eux qui avaient construit, notamment Jérusalem, et puis un palais à Jérusalem, un palais de pierre. Et il souhaite finalement donner... Alors, le texte grec est très précis. Peut-être pas le français. Parce qu'en français, on a souvent le mot « maison hein, ». Une maison pour le Dieu de Jacob, ou maison pour Dieu. En grec, il est toujours question de campement. C'est très intéressant. Donc, on pourrait traduire par « tente », « campement », un logement, mais pas une maison. Une habitation, une demeure, une résidence. Hein, le grec pourrait couvrir... Tout ce vocabulaire. Mais donc, il n'est pas encore vraiment question ici de construire un lieu en dur, fixe, à Jérusalem. Juste, David se pose la question de la dignité qu'il faudrait donner à Dieu alors qu'eux vivent dans des maisons maintenant. Et on voit donc la réponse de Dieu par l'intermédiaire de Nathan. Ben, c'est non, quelles que soient les raisons. Ce n'est pas un non... méchant et catégorique, c'est un nom qui laisse supposer que la bénédiction va se poursuivre, que d'autres générations accompliront ce que lui souhaitait. Et finalement, verset 47, c'est Salomon qui nous dit, ben voilà, c'est comme ça que ça va se terminer, qui construit ben, le premier temple. Alors, pour la petite histoire, il a quand même fallu 7 ans pour le construire, et ça se trouve aux alentours de 970 avant Jésus-Christ. Donc on peut dire, il y a eu 500 ans avec une tente, il va y avoir à peu près 1000 ans avec un temple à Jérusalem, un lieu fixe à Jérusalem. Alors, ce n'est pas la faute à Salomon, mais en tout cas, Étienne trouve que c'est rétrograde. le fait d'avoir construit du dur est problématique pour lui, parce que, un, on fixe définitivement le lieu, il n'y a plus cette complicité, il n'y a plus cette possibilité que tout le monde ait droit à voir passer la tente dans sa tribu, etc., etc. Donc, c'est un peu comme s'il s'attaquait à la non-mobilité du temple, si vous voulez. Peut-être il y aurait eu le projet de 2-3 temples sur l'espace du territoire de Canaan. Peut-être qu'Étienne aurait trouvé ça plus juste, à la limite. Voilà. Ça posait quand même la question de savoir si Dieu y est ou n'y est pas, quoi. Alors, là où le grec va être terrible, et là je veux dire qu'Étienne y va très très fort, c'est au verset 48. D'abord, il commence avec Salomon en disant « Bon, ben, est-ce que vous croyez vraiment que le Très-Haut habite dans des demeures ? Est-ce que ça, est-ce que, comme disait Anne-Catherine tout à l'heure, est-ce qu'il faut imiter les païens ?» C'est ça qu'il dit, hein, Étienne, pour l'instant. Il est en train de leur dire « Non, mais ça, c'est du n'importe quoi, quoi. Hein. » Et donc, à un moment donné, dans nos versions, nous avons... Enfin, moi, dans la mienne, il est question « Dieu n'habite pas, le Dieu Très-Haut n'habite pas des demeures construites par la main des hommes. » Cette expression « par la main des hommes » est exclusivement en grec réservée à l'idolâtrie. Donc l'accusation est très très forte. Étienne est en train de leur dire « Nous, Hébreux, nous avons préféré construire une maison à idole plutôt que de garder la tente de la rencontre. » C'est très très fort, très très fort. Et on peut comprendre que les autres devaient superbement mousser dans l'auditoire. Faites de main d'homme, en grec, c'est donc un verbe exclusivement utilisé pour parler de la fabrication des idoles. Un verbe approprié. Et Étienne sous-entend donc que le temple n'a pas empêché l'idolâtrie. Le temple n'a pas eu la suprématie dans son rôle par rapport à l'idolâtrie. À commencer par Salomon. Parce que Salomon a bel et bien construit le temple. Il a été un excellent roi. Mais il a contracté tellement d'alliances maritales avec des païennes que Jérusalem s'est retrouvée noyée sous toute une série d'idoles et de petits temples à côté du grand temple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il a toléré de ses concubines et femmes étrangères des cultes qui n'étaient pas le culte au Dieu d'Israël. Et donc, Étienne a raison. Il vise le passé, mais il vise aussi le présent. Parce que quand il dit... c'est finalement un lieu d'idolâtrie, votre temple. Il est en train de dire à commencer par vous. Vous, les leaders religieux, compromis avec les Romains. C'est-à-dire, quelque part, pour pouvoir user de vos prérogatives religieuses, pour pouvoir donner des impôts et des revenus au temple, vous exagérez également, vous êtes dans l'impureté, donc vous êtes idolâtre. Voilà, c'est un peu ça qu'il leur dit. Là, on comprend, de nouveau, c'est la deuxième grande claque. Hein, on leur dit, finalement, vous êtes des idolâtres, hein, sous-entendu comme vos pères, dit-il dans le texte. Et puis, il cite Ésaïe. Et ça, c'est, je pense, la cerise sur le gâteau. Il cite Ésaïe, début du chapitre 66, et il réfute au travers d'Ésaïe. Donc, c'est pas lui qui le dit, c'est Ésaïe. C'est le grand prophète d'Israël qui dit, mais... Croyez vraiment que Dieu puisse habiter dans un édifice ? Vous croyez qu'un édifice peut contenir le Dieu de l'univers, le Dieu créateur ? Mais vous vous foutez le doigt dans l'œil. C'est ça qu'il leur dit, hein, très clairement. Construire un temple, ben c'est concevable pour des idoles païennes, mais pas pour le Dieu Très-Haut, comme il dit, pas pour le Très-Haut dont le trône est au ciel et dont nous ne sommes que le marchepied. Donc Jérusalem, c'est le marchepied de Dieu. Ça, oui. Mais dire que Dieu réside là, non. Là, vous avez tort, quelque part. Aucun édifice ne peut et ne pourra jamais le contenir. Et puis, dernier argument qu'il assume au sujet de cette citation d'Ésaïe, c'est « Dites, vous ne croyez pas que le Dieu créateur est assez grand pour créer son propre temple ? Est-ce qu'il a vraiment besoin de nous ?» Or, Étienne garde toujours en l'idée que le vrai sanctuaire est au ciel. Là où Dieu réside, c'est là que se trouve le lieu très saint. Donc on peut supposer que cette remise en question, très forte. Hein, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le grec. Remise en question du temple, je vais utiliser le mot exprès, vénéré. Faut pas toucher au temple. Ben, si ça, c'est pas une idole, je sais pas ce que c'est. Hein. Si tu dis un seul lieu dont on ne peut pas parler en mal, dans lequel les païens ne peuvent pas rentrer, etc., etc. Un lieu vénéré par-dessus tout, si ça, c'est pas d'idolâtrie, alors on ne sait pas ce que c'est. Étienne, donc, suppose que cette remise en question, c'est ce qui va déchaîner le reste, et notamment le reste de son discours. Car en fait, je crois sincèrement qu'au moment où il les attaque comme ça, sur l'utilité du temple, et sur ce que le temple est devenu, eh bien, là, on peut voir dans l'assemblée des réactions colériques. C'est impossible que le Sanhédrin soit resté impassible face à ce qu'il considère comme des accusations quasi mensongères, tu vois, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître, eux, qui ils sont réellement, et leur fricotage avec les Romains, tout ça, ils ne veulent pas l'entendre dire. Donc, on peut supposer qu'il y a des réactions de vive colère au sein de l'assemblée. Et alors, je crois que Étienne, voyant cela, voyant le Sanhédrin déchaîné, va décider d'asséner le dernier coup mortel, c'est le cas de le dire. Et ça démarre au verset 51. Comment il va régler... Donc, on est déjà assez loin, mais c'est bien que tu sois là. On est plus ou moins arrivé au verset 51. Donc, en résumé... avant d'attaquer la dernière contre-attaque d'Étienne, on est devant la démonstration que l'attente de la rencontre aurait dû rester l'attente de la rencontre, un vrai lieu relationnel avec Dieu, et non pas une machine à fric qui est devenue le temple. Et donc le fait de fixer, d'empêcher la mobilité de l'attente de la rencontre est déjà en soi... Une erreur pour Étienne, hein, c'est Étienne qui tient le discours, c'est pas moi. Et puis il leur dit, ben, finalement, si vous étiez si sûr de vous au niveau de ce que le temple peut être, en tout cas sachez que Dieu ne peut pas y résider, vous ne pouvez pas le contenir. Sous-entendu, vous ne pouvez pas manipuler Dieu en le tenant là, dans cet édifice. La preuve a été faite plusieurs fois dans l'histoire, puisque le temple a été pillé, détruit, envahi, etc., et que les nations païennes ne sont pas mortes sur le champ. Donc voilà, c'est comme si Dieu s'amusait, d'une certaine manière, de voir que les croyances des Hébreux, ben, ça ne fonctionne pas. Que si ça avait été le cas, tous ces gens auraient dû mourir dès la pénétration dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint.
Comme il n'avait pas voulu le temple, et pour la tente, il avait donné les plans, mais pas
exactement,
pour le temple.
Exactement, pas pour le temple. Même si le temple a été largement copié sur le tabernacle, hein, la même idée se retrouve, mais oui. Et d'ailleurs, dans le choix qui a été fait par David et par Salomon, le choix des matériaux, tout ça, ça n'a pas été dicté par Dieu. Or, pour l'attente de la rencontre, c'est l'inverse, exactement. Tout ce qui s'y trouvait a été énuméré, listé par l'Éternel. Et d'ailleurs, si vous y avez fait attention, tout ce qui est... Alors, rappelons-nous, le temple à Jérusalem, c'est de la pierre. La seule chose qu'on a faite, c'est de ne pas la tailler sur place. Il ne fallait pas que ce soit des pierres taillées pour ne pas profaner la pierre, d'accord ? Bon, ok. Mais, en dehors de ça, la tente, elle représente tous les éléments de la nature. Donc, on a le monde minéral, avec des pierres et tout le bazar, pierres précieuses, entre autres, végétales, et animal, parce que la plupart des peaux sont des peaux de bêtes, de peaux de bélier, entre autres, mais plus que tout, ce qui recouvre totalement le tabernacle à l'époque, ce sont des peaux de dauphins, qui étaient les plus sombres, qui apportaient le moins de luminosité à l'intérieur, etc., etc. Peut-être même protégeaient de la chaleur, j'en sais rien, mais voilà, donc on se rend compte que c'est comme si l'univers entier... Le cosmos et la Terre se trouvent représentés dans cette humble tente. Hein. C'est pas un temple d'une divinité païenne. Un tout petit truc qui fait pas grand-chose. Hein. L'ensemble devait peut-être faire 50 mètres de long, hein, avec l'esplanade, hein, en comptant l'esplanade. C'est-à-dire trois fois rien à l'échelle d'un campement où il y a 2 millions de personnes, 2 millions 5.
Yves, la tente, elle était dans une société, disons, nomade. Mmh. D'accord ?
Tout à fait.
À un moment donné, si ces nomades se fixent... Ah oui, je voulais dire aussi, la tente, c'est un lieu de rencontre. Il ne vit pas dans la tente, Dieu.
Il est présent de temps en temps.
Il est présent.
Il s'y montre.
Oui, présent. Il rencontre les personnes. Si maintenant cette société se fixe, on aurait pu concevoir une tente fixe, donc solide, où le Seigneur pourrait rencontrer les autres. C'est les hommes qui ont, détourné l'objectif. Mais moi, je trouve que on pourrait considérer que le temple pourrait être une tente fixe. C'est ça que je voulais dire. Tu vois ?
Et, oui.
Mais disons, finalement, l'homme en a fait autrement, autre chose. Parce que quand la société est restée fixe, il n'y avait plus de lieu de rencontre, puisque la tente nomade n'existait plus.
Ceci dit, on est loin, à l'époque de David et de Salomon, on est loin d'un établissement dans des villes pour tout Israël. Beaucoup sont encore en campement. La plupart des éleveurs, par exemple, continuent à pérégriner, notamment en Judée, hein, sur les collines de Judée, pour faire paître leurs troupeaux, changeant de lieu tous les 15 jours, 10 jours, voilà.
Parce que, la demeure du Seigneur, c'est le ciel. Il n'y a pas d'autre.
C'est clair.
C'est clair.
C'est ce que les prophètes n'ont pas arrêté de dire, d'ailleurs.
Ben oui. Alors, je ne comprends pas comment il s'est fixé, le Seigneur, dans une demeure peu importe où.
Oui, mais ça nous montre une chose, c'est que la royauté n'a pas que du bon. Quand le roi s'installe lui-même... Oui. Eh bien, il veut avoir la main mise sur Dieu aussi. Oui. La proximité de Dieu, c'est pour lui. D'accord. Et donc, le pouvoir compromet quelque chose aux religieux, si tu veux.
D'accord.
Il y a une espèce de confusion, de compromis. On voit d'ailleurs que Dieu n'accepte pas pour David ce compromis. Il n'en veut pas. Mais il dit, je concède que Salomon sera. Mais je pense quand même que dans l'idée de Dieu, continue... à être à son esprit l'idée que le vrai lieu, c'est le Christ. Mm-hmm. Quand le Christ vient, c'est le lieu.
L'Emmanuel.
Oui, tout à fait.
Oui, donc,
et donc, la promesse n'est pas finie. Le temple n'est jamais qu'une péripétie sur la durée par rapport à la promesse faite à Abraham, qu'un jour, un descendant, etc.
Et je pense que même les Juifs le savaient, parce que dans Jean 4, quand Jésus parlait avec la femme...
La Samaritaine.
Voilà, elle a dit que nous savons que quand Messie va venir, il va nous révéler tout. Mm-hmm. Et on lui disait, il est avec toi. Et il disait, pour le moment, ce n'est plus la montagne, C'est vous allez alors, à moi, vous allez louer Dieu en vérité, en esprit. Comme tu disais, je pense que c'est eux-mêmes, ils savaient qu'un jour, quand Messie va venir, il va montrer toute la gloire de Dieu en lui. Il va les aider à louer Dieu dans une façon parfaite et aussi, qui va remplacer tout ce qui était avant. Parce que même dans le temple, il ne pourrait pas accéder à Dieu dans la plénitude, mais en Christ. Mm-hmm. Il a révélé la gloire de Dieu.
Et d'ailleurs, on pourrait imaginer que si vraiment le temple aurait pu être le lieu d'adoration de tous les êtres, de tous les descendants d'Abraham, je crois que là, on se rend bien compte que ce n'est pas possible. Mm-hmm. Tu ne peux pas convoquer le monde entier, les 5 continents, claque pour aller à Jérusalem 2, 3, 4 fois par an, pour adorer Dieu. Et donc l'adoration en esprit, c'est ce que tu invoques avec ce texte de Jean, l'invocation en esprit et en tout lieu devient la vraie possibilité de faire temple, si vous voulez. Donc au fond, c'est comme si l'être humain, le corps, la chair, devient le lieu d'habitation de Dieu. Alors quand nous sommes individuellement je suis porteur du Christ, si vous voulez, Christophore, mais lorsqu'on est collectivement, c'est l'Église qui devient le vrai temple. Et l'Église, c'est sur toute la terre qu'elle est établie encore, à l'époque, pas tout à fait, mais aujourd'hui, oui. Et on peut se dire, voilà, la réalisation de la promesse, c'est aussi cette accessibilité pour tous les hommes à Dieu, quelle que soit leur origine, leur race, leur langue, leur lieu d'habitation. Et donc l'Église devient un peuple universel, au fond, dans lequel d'ailleurs se retrouvent des Juifs aujourd'hui, hein, donc on n'est pas tout seul non plus.
Oui, c'est quelque chose, je pense, que j'ai déjà dit, mais moi ça m'a impressionné. Chaque fois dans la Bible qu'il y a un nouveau personnage, Dieu lui dit, ne crains pas, je suis avec toi. Et puis quand Jésus sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous, et à la fin de l'évangile, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc depuis le début, c'est je suis avec vous, donc je suis avec vous, donc de certaine façon, vous êtes mon temple, quoi, comme ça Paul le dira. Quoi.
En tout cas, Dieu les accompagne et accompagne les hommes tout au long de cette histoire d'Israël, et puis après aussi, hein, à partir des évangiles, avec tous les païens qui vont se tourner vers Jésus, le même accompagnement est là. C'est très précieux, finalement. Alors, attaquons la dernière partie. Donc, à partir du verset 51, comme je vous le disais, c'est un peu comme si Étienne se rendant compte que le Sanhédrin est fou de rage, que certains commencent un peu à s'exciter sur leur banc, alors il les attaque frontalement cette fois-ci, parce qu'il dit finalement vos réactions là de colère, c'est du cinoche, hein, parce que vous êtes vraiment ce que je dis que vous êtes. Donc pour lui, il les attaque en disant clairement « Comme au Coured, incirconcis de cœur et d'oreille, toujours vous résistez à l'Esprit-Saint. » Ça ne peut pas être plus frontal. Hein. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces phrases?
C'est souvent marqué, hein, le courette, c'est quand on n'obéit pas à Dieu.
Ouais, c'est quand on ne veut pas courber les chines, comme on dit en français. Hein. Donc on marche bien droit, et c'est tout juste si on ne dit pas à Dieu, à la gare. D'accord. Donc, homo courette, est-ce que c'est une nouvelle expression
non.
pour les Juifs? Non. Parce que tout l'Ancien Testament, et je pourrais vous citer un certain nombre de textes depuis l'Exode, Lévitique, Deutéronome, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, disent la même chose. Chaque fois qu'il y a eu idolâtrie, chaque fois qu'Israël s'égare, c'est exactement l'accusation des prophètes qui est de leur dire « Dites, vous allez un peu courber les chines maintenant. Parce que vous êtes devant Dieu ici. Hein. Vous n'avez pas été choisi pour vos mérites. Donc, un peu d'humilité, ça ne vous ferait pas de mal. » Hein, okay. Donc, ce n'est pas nouveau. Et donc, le fait qu'Étienne utilise les mêmes accusations que les prophètes veut bien dire qu'Étienne est sûr de son coup, c'est que la plupart des autorités présentes là au Sanhédrin sont des gens qui ne courbent pas les chines devant Dieu. Parce que s'ils avaient courbé les chines devant Dieu, ils auraient embrassé le Messie. Mais ils ne l'ont pas fait à cause de leur pouvoir, de leurs prérogatives, de leur alliance avec les Romains, pour toute une série de raisons, par aveuglement, etc., etc. Ils ne l'ont pas fait. Mais moi, je me mets à la place d'Étienne et du courant messianique, et je leur dis, désolé, mais nous, on pense qu'on a raison. Nous, on a ouvert les yeux, nous, on a reconnu le Messie, que vous ne voulez pas reconnaître. Et pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître ? Parce que vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Donc là, il... Paf ! Deuxième coup. Incirconcis de cœur et d'oreille. C'est intéressant comme expression. Parce qu'il faut savoir qu'en hébreu, ben, le cœur, c'est quoi ? Ben, c'est le siège de la pensée, le siège de la volonté. Donc le siège de l'agir, n'est-ce pas ? De l'action. Donc un, vous n'avez pas circoncis votre cœur. Vous n'êtes pas prêt à penser convenablement. Vous n'avez pas la volonté d'obéir à l'Éternel. Et puis les oreilles, comment peut-on ne pas être circoncis d'oreilles? Eh bien, quand on ne veut pas entendre, quand on refuse d'écouter, parce qu'en grec, il faut savoir que le verbe obéir comporte le verbe écouter. Donc pour obéir, il faut avoir entendu, il faut avoir écouté, être séduit par ce qu'on a entendu et le réaliser. Et donc, il les accuse de ces deux choses, de ne pas plier leur volonté à celle de Dieu, ça c'est pour le cœur, et de ne pas vouloir entendre parce qu'ils ne veulent pas obéir, tout simplement. Donc l'accusation continue assez fort. Et au fond, il leur dit, mais vous, les autorités du Sanhédrin, où vous êtes déconnecté de votre propre engagement. C'est-à-dire, votre engagement, c'est quoi? C'est de défendre la religion, la judaïté, le temple. Mais souvent, ce que vous faites, c'est le contraire. Vous profitez de vos prérogatives, vous profitez du temple pour vous enrichir, mais vous n'êtes pas là pour rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Et donc, il les prend vraiment très frontalement. Et non seulement cela, mais ça voudrait dire, pour Étienne, en les traitant d'hommes aux courets, d'incirconcis de cœur et d'oreille, de résister à l'Esprit Saint, mais il leur dit finalement, c'est vous-même qui animez la révolte d'Israël contre Dieu. C'est vous les dirigeants. Comme ça a été le cas de la plupart des rois d'ailleurs. Chaque fois qu'Israël dérape, c'est souvent parce qu'il y a un petit roi, qu'il soit du nord ou du sud, qui décide qu'on va faire autrement. On ne va plus adorer l'Éternel, on va construire des autels pour les divinités païennes, etc. La dernière chose qu'il leur dit, donc, vous résistez à l'Esprit Saint, et il précise comme vos pères, c'est-à-dire comme au temps de Moïse, comme au temps des prophètes, au verset 52, et vous résistez à l'Esprit Saint parce que depuis la Pentecôte, vous vous opposez aux prédicateurs de l'Évangile. Donc, parce que c'est ça qu'il essaie de leur faire comprendre. Nous, nous pensons que nous avons raison. Parce qu'il y a des signes visibles de la présence du Messie, de sa résurrection, etc. Mais vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas écouter l'Évangile, la bonne nouvelle en question. En clair, si on dit qu'on résiste à l'Esprit Saint, c'est qu'on s'oppose à Dieu. Parce que si tu résistes à l'Esprit Saint, c'est que tu ne veux pas obéir à Dieu. En tout cas, tu ne veux pas obéir au vrai Dieu. Après, tu peux composer un Dieu légèrement éternel, tu vois, avec quelques relents romains. Ok, on peut toujours fabriquer une sorte de syncrétisme pour s'en sortir et pour garder son pouvoir et ses prérogatives. Et donc là, franchement, il les attaque très très durement. Je suppose que quand Étienne est en train de dire toutes ces choses, il en connaît les conséquences. C'est-à-dire, c'est impossible que Étienne ait été assez naïf pour croire qu'il n'allait pas le toucher. Donc, du coup, il va jusqu'au bout de sa logique et il attaque, alors verset 52, « La preuve de ce que je vous dis, c'est que vous avez assassiné le juste. Si vous aviez obéi, vous n'auriez pas fait cela. Vous n'auriez pas fait crucifier par les Romains un juif et un juif innocent. » Le juste, dit-il. Or, c'est un vocabulaire de l'Ancien Testament. Le juste, c'est qui, finalement?
Le Messie.
Oui, entre autres. Mais si on se met dans le vocabulaire de l'Ancien Testament, qui peut être juste?
Non.
En partie. Mais si on parle d'homme, qui peut être juste parmi les hommes?
Abraham.
Il y a quelques justes, effectivement. Abraham, pour avoir obéi, pour avoir réalisé plein de choses.
Celui que Dieu justifie.
Mais tu dis ?
Celui que Dieu justifie.
Oui, exactement.
Oui, mais il dit le juste.
Alors, ici, on a bien le, un article bien précis. Donc, le juste, c'est celui qui observe l'alliance, qui obéit pleinement à la loi, ou pour le dire dans le vocabulaire du Nouveau Testament, qui accomplit la loi. Qui l'a fait ?
Jésus.
Pas 36 000. Donc nécessairement, le seul homme qui a pu réaliser l'observation de l'alliance, le respect de cette alliance, et l'obéissance pleine et entière à la loi, il n'y en a qu'un seul. Et c'est celui-là que vous avez zigouillé. Ainsi, le juste, on peut dire que le juste, c'est celui qui juge avec justice, puisqu'il est juste. Donc, pour toutes ces raisons... Donc ils continuent à les attaquer, et eux savent très bien, en entendant ça, que c'est Jésus qui parle. Il n'a pas besoin de dire Yeshua. Ils savent qu'il est en train de déblatérer le même discours que Pierre, le même discours que Jean, au sujet de « vous avez tué, vous avez assassiné », etc. Celui qui, justement, aurait pu vous libérer de votre idolâtrie, c'est lui que vous avez préféré zigouiller. Et il va terminer, enfin... Si je puis dire, ce n'est pas le but. Je pense qu'Étienne voulait continuer son discours. Mais malheureusement, il va se terminer là, au verset 53. Étienne les accuse de rester fidèles à leur père dans la désobéissance. Là, ils sont fidèles. Vous êtes fidèles. Quand vous désobéissez, là, vous êtes complètement fidèles à vos pères, à vos géniteurs. Désobéissance et rupture avec la loi. Vous n'observez pas la loi. La preuve, vous m'avez arrêté. Vous me faites comparaître de manière ignoble. C'est pas comme ça que ça doit se passer, normalement. Et vous l'avez fait aussi avec le juste, ça. Ouais, bon, on imagine bien la scène. Donc, il leur dit, finalement, vous n'êtes pas des observateurs de la loi. Vous êtes peut-être des gardiens de la loi, des ayatollahs de la loi, mais vous n'êtes pas observateurs de la loi. Vous ne vous y engagez pas, vous ne la respectez pas et vous ne l'accomplissez pas. Alors là, je peux comprendre que la rage s'est emparée de l'ensemble de l'Assemblée, parce que là, c'est de nouveau le coup de massue. Et il dit tout cela, tout ce que je viens de dire, avec une grande fidélité à l'Écriture, car vous remarquerez que le Sanhédrin n'a pu réagir sur aucun des arguments bibliques tirés de l'Écriture. Étienne connaît son texte, même si c'est la Septante. Il connaît l'Ancien Testament, et il leur a asséné une série de vérités. Et il le fait avec force, et peut-être même virulence à certains moments. Et à ce moment-là, on peut dire qu'Étienne sait très bien qu'il court au martyr. Quand il sort tout ce qu'il leur a dit, la mort est là, il le sait. Et au fond, on pourrait presque se demander si Étienne ne veut pas leur prouver leur véritable infidélité. C'est-à-dire, si vous me tuez, c'est que vous êtes bien comme vos pères. Vous avez tué les prophètes, pourquoi pas moi, etc. etc. Donc il y a tout ça qui se développe. En même temps... Je pense que j'oublie quelque chose. Voilà, donc lui qui était accusé se retrouve accusateur. Toute sa défense est basée sur « Est-ce que vous êtes meilleur que moi ? Je vais vous montrer que non. Et vous avez désobéi comme vos pères et vous continuez à le faire, etc. etc. » Mais j'oublie quelque chose, il me semble que j'avais un autre truc que je voulais dire. Bref.
On change la perspective. Hein. C'est lui qui est le juge. C'est lui qui juge. C'est eux
c'est
les
qui accusent. En tout cas,
lui qui accuse. En tout cas, il accuse. Ouais. Il ne les juge pas dans le sens qu'il ne les condamne pas. Mais il leur montre en tout cas que leur lecture de la réalité, la lecture de la loi est fausse. La manière dont ils la vivent, la manière dont ils se sentent défenseurs du temple, etc. Tout ça est parfaitement païen. Et d'ailleurs, maintenant, si on devait s'appliquer le texte à nous-mêmes, peut-être que nous devrions réfléchir. Parce qu'au travers de l'histoire de l'Église, on a quand même un certain nombre de choses à se reprocher sur la manière dont nous avons géré l'Église. Bon, par exemple, prenons l'exemple du temple. La construction du temple, au fond, si je résumais très fort la pensée d'Étienne, c'est « Vous avez voulu sacraliser un lieu » pour, soi-disant, rendre un culte à Dieu. Mais en sacralisant, vous avez idolâtré. En sacralisant, vous avez rendu non conforme le culte de la rencontre est devenu un lieu de rapine. Ce que Jésus dit, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, bande de voleurs, etc. Non seulement ça, mais ils chassent les marchands du temple. Donc c'est très très fort. Vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs. Ça, c'est terrible. Et Étienne tient à peu près le même vocabulaire. Donc il leur dit, en sacralisant, vous avez rendu ce lieu idolâtre, comme peut-être aujourd'hui, nous faisons, je pense même dans notre temple, hein, je ne parle pas de l'Église catholique nécessairement, lorsqu'on prie, par exemple, en début de culte, ou lorsqu'on invite le peuple dans la maison de Dieu, est-ce qu'on ne se trompe pas ? Est-ce que vraiment les quatre murs d'une salle, d'une banale salle, c'est la maison du Père ? Il ne faudrait peut-être pas se tromper, les amis. Donc ce côté sacral qu'on donne à des lieux n'a pas de sens du point de vue biblique. Parce que s'il y a un lieu qui est sacré, c'est l'univers tout entier. C'est là où réside Dieu. Mais en dehors de ça...
Est-ce qu'on ne dit pas que quand deux, trois personnes se réunissent, en son nom, il est parmi nous.
Oui, tout à fait.
Donc,
c'est la rencontre.
Ou que c'est la rencontre.
Oui, ce soit. Donc il n'y a pas de lieu. Maintenant, donc, maintenant, est-ce que...
Bienvenue dans la maison du Seigneur, ça ne devrait pas s'entendre, ça. Non, sans blaguer, je dis ça.
Oui, c'est vrai.
Je pense qu'il y a là déjà oui. quelque chose de trop. C'est comme ça qu'on dérape, en fait, en utilisant le vocabulaire qu'on veut sans doute respectueux, glorificateur oui, et oui, tout. Oui. Mais quelque part, très vite, sur deux générations, ça devient « attention, ce lieu est sacré ».
Oui.
D'où l'idée de profanation. Si tu le désacralises, tu le profanes. Mais est-ce vraiment le lieu où Dieu habite ? Est-ce qu'il n'est pas préférable que Dieu habite nos cœurs, le lieu où il est vraiment présent? Enfin, je ferai une démonstration plus tard, pas aujourd'hui, mais il y a de ça. Et donc là, après avoir dit toutes ces choses, un très très long discours, hein, eh bien, ça ne va pas le faire. Quoi.
Mais il faut réfléchir quand on chante le cantique « Nous venons dans ta maison ». Il n'est pas tout à fait mauvais, mais si on y voit vraiment le lieu saint, waouh, alors là, on a tort.
Je crois qu'on devrait davantage parler de communion. Le lieu d'une communion, oui, on se rassemble le dimanche à plusieurs, on devient communauté devant Dieu, on devient même l'image visible de ce Dieu. Mm-hmm. En s'associant un dimanche matin, on devient comme l'hologramme de la présence de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme la colonne de nuée de l'Ancien Testament. C'est ça notre rôle, finalement. Mais dire que les murs, ou la tente, ou peu importe la formule, hein, dire que ça, c'est la place où Dieu réside, habite, et que c'est le seul lieu où on peut lui rendre un culte, ben non. C'est pas la réalité biblique, loin de là. Et encore moins avec la résurrection. Donc si Jésus est au ciel... J'ai presque envie de dire qu'il y reste, parce que c'est bien pour nous. Mais oui, il vaut mieux qu'il soit là-haut pour nous défendre, plutôt que d'être trop près de nous.
Je me suis déjà posé la question, quelle est la signification d'une bougie qu'on allume dans certaines églises ? Mm-hmm. Il faut poser des questions.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on cherche à montrer en mettant une bougie allumée ? Ce serait intéressant de savoir ce que les gens pensent là-dessus.
Alors si c'est par rapport à la lumière, ça ne me dérange pas. Si l'idée, c'est que Dieu est lumière, à la limite. Oui. Mais si c'est pour marquer une présence réelle, quasi physique de Dieu, ça me fait un peu peur, quelque part. Enfin, du point de vue biblique, hein. J'ai pas peur pour autant, mais... Je crois qu'il y a des choses comme ça qu'on doit absolument réformer dans notre manière de lire et d'apprécier l'Écriture, au point que ça transforme nos manières de faire. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Alors, je sais pas si vous avez, par rapport à la dernière fois et à aujourd'hui... une application qui vous a sauté aux yeux, c'est le bienvenu, hein, parce que je n'en ai pas trouvé beaucoup pour aujourd'hui. D'abord parce qu'on se répète un peu ces derniers temps avec le discours, mais je pense aussi clairement à la fidélité de Dieu. Quand tu vois comment Dieu agit depuis des millénaires pour accomplir totalement sa promesse, c'est incroyable, quoi. Moi, c'est de l'ordre du miracle, franchement. Donc la prochaine fois, quand ce sera la rentrée de septembre, on commencera donc le texte au niveau de la lapidation d'Étienne. Alors, il faudra peut-être un petit peu se replonger dans tout ce qu'on s'est dit ces dernières semaines, mais voilà, son discours a exaspéré le Sanhédrin. Et de nouveau, comme je vous l'avais déjà dit, dans le plus profond non-respect de la loi, on s'empare de lui et on le lapide sans jugement. Donc, aucun jugement n'a été posé, mais on va s'emparer physiquement de lui, le traîner hors de la ville et le tuer. Donc là, on ne peut pas faire mieux comme démonstration de l'attachement à la loi, quoi. Voilà. Donc on commencera avec ce texte-là.